Deauville.ch.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Je pense qu'il y a d'autres méthodes et puis qu'il faut juste les développer.
Si on doit parler du nucléaire, le nucléaire, ça rendrait le pays très indépendant.
Je pense qu'il peut y avoir des bienfaits, mais ça reste encore assez risqué.
Ça, on peut faire 10 pas en arrière.
Et puis, on avait voté contre. Je vois pas pourquoi on doit revenir là-dessus. Je trouve que de nos jours, on peut aller vers d'autres types d'énergie.
Bonjour, Jean-Marc Richard.
Bonjour Valérie, on va parler d'énergie et on va parler en particulier de nucléaire avec cette question essentielle. On le verra tout à l'heure dans l'actualité, c'est aussi essentiel. Faut-il ou non revenir au nucléaire? Donc retour du nucléaire pour ou contre? Et je ne vous le cache pas Valérie, comme
non,
hier...
Non, ne nous le cachez pas.
Non, c'est vrai, je ne sais pas d'où vient cette expression, est complètement ridicule du reste, je vais l'enlever. Donc je ne vous le cache pas, c'est la dernière fois. Eh bien c'est comme hier, 50-50. Hier c'était sur l'éco-anxiété, aujourd'hui c'est donc sur le retour du nucléaire. Alors ceux qui sont contre le retour... pense qu'il faut privilégier d'autres sources. On a déjà voté, disent certaines et certains. Il y a de nombreux dangers, on ne connaît rien des nouvelles technologies et reste le problème des déchets. Et ceux qui sont pour disent en substance, on n'a pas le choix, tout est devenu complètement électrique, les voitures, les trottinettes, etc., etc. Et en plus, on ne réduit pas la consommation et c'est toujours mieux que de rouvrir les mines de charbon. Et puis, il y a ceux qui restent climato-sceptiques qui se sont aussi exprimés. Donc voilà, à vous de nous dire ce que vous pensez de cette proposition du retour du nucléaire. 079 844 00 77.
Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Augier.
Le retour du nucléaire, pour ou contre, c'est le thème de vous d'abord, jusqu'à 13h. Alors justement, question, le retour du nucléaire, pour ou contre, Sophie Vassitil?
Alors qu'on commémorait dimanche les 40 ans de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, le nucléaire fait son retour dans le débat énergétique européen. Un anniversaire qui rappelle les risques liés à cette technologie, au moment même où certains partis de droite et plusieurs lobbies souhaitent relancer la construction de nouvelles centrales.
L'interdiction de construire de nouvelles centrales n'a été donc une hypothèse?
Elle pourrait en tout cas être remise en question. À la mi-mars, le Conseil des États a adopté un contre-projet indirect à l'initiative populaire Stop au Blackout. Le texte vise à supprimer de la loi l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires adoptée par le peuple en 2017.
Alors pourquoi ce retour aujourd'hui?
Pour une majorité des sénateurs, le contexte a changé. Il faut désormais sécuriser l'approvisionnement énergétique du pays. Alors dans un contexte géopolitique tendu, marqué notamment par la guerre au Moyen-Orient, plusieurs États cherchent à réduire leur dépendance extérieure et à renforcer leur autonomie en électricité. Le nucléaire retrouve ainsi une certaine attractivité. Environ 60 réacteurs sont actuellement en construction dans le monde et le parc global pourrait atteindre près de 600 unités en 2040 contre environ 440 aujourd'hui. Une dynamique particulièrement visible en Asie, notamment en Chine et en Inde. Et
la gauche, elle, s'y oppose fermement.
Si le Conseil national suisse sa commission, les Verts ont déjà annoncé le lancement d'un référendum pour le parti par la voix de Christophe Cliva. Revenir sur cette interdiction revient à ignorer la volonté populaire d'accélérer la transition énergétique via les énergies renouvelables. La sénatrice socialiste jurassienne Mathilde Crevoiset-Crelier a rappelé à Marie Vieumier pourquoi cette énergie reste problématique lors de l'adoption du contre-projet.
Fondamentalement, les conditions n'ont pas beaucoup changé avec les années. Évidemment, on entend parler d'innovations technologiques, mais qui ne sont absolument pas encore prêtes à être commercialisées. On parle pour les centrales de quatrième génération d'un horizon 2040-2050. Par ailleurs, les risques restent entiers. La thématique des déchets n'est pas non plus résolue. Et on sait qu'en Suisse, maintenant, on commence à peine à trouver le début d'une solution pour nos déchets actuels. Quid des déchets futurs si on devait ouvrir de nouvelles centrales?
Alors, quid, hein, l'initiative populaire Stop au Blackout et son contre-projet doivent encore passer devant le Conseil national. Alors, 40 ans après Tchernobyl et 15 ans après Fukushima, sommes-nous prêts à tirer la prise ou au contraire changer de cap? À vous d'abord d'en parler.
Merci Sophie Sutil.
Et avec plaisir, on voit arriver les premiers messages au 079 844 00 77. Premier message qui semble pour la plupart dire on est pour parce que l'énergie nucléaire c'est la moins polluante ou parce qu'on va devoir faire face à la fonte des glaciers et un jour l'exploitation hydraulique deviendra un problème. Mais il y a aussi des gens qui soulignent la problématique des déchets. Alors qu'en dit la rue? C'est ce qu'on va écouter tout de suite.
Je pense qu'en Suisse on a assez de ressources hydrauliques. Donc je pense que
c'est pas forcément nécessaire de revenir au nucléaire, surtout qu'il y a toujours la question des déchets.
Ça va un peu en contradiction avec plein de choses en Suisse. Par rapport à l'écologie, tout ça, c'est un peu faire 10 pas en arrière.
Avec les nouvelles techniques qu'il y a, les nouveaux réacteurs, finalement, pourquoi pas?
Certes, c'est pas la meilleure idée, mais au moins, on sait que ça marche, quoi.
Peut-être que pour nous, ça peut être bien pour être un peu autonome, avec les problèmes qu'on a avec le pétrole et tout en ce moment.
Jacques Audergon, bonjour. Merci bonjour. D'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui. Vous êtes ingénieur civil EPFL SIA. Vous avez présidé l'association fribourgeoise pour l'énergie. Vous êtes membre et fondateur du club Environnement, Énergie, Sécurité. On est content de vous avoir avec nous. On veut poser le décor, d'accord, si vous êtes d'accord avec nous, en parlant de l'histoire du nucléaire qui commence un peu dans les années 50. C'est pas si ancien que ça. Hein. C'est la première fois que la Confédération s'y est vraiment intéressé, en Suisse, hein, je dis.
Tout à fait. Donc, dans les années 50, la Confédération s'est intéressée à cette forme d'énergie et a commencé à mettre en service des centrales nucléaires à partir de 1969. Dans l'ordre, il y a eu Betzno 1, Mühleberg, Betzno 2, Gösgen, et enfin Leibstadt, qui a été mis en service en 1984.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que la première centrale nucléaire, c'était celle de Lucent. Et c'est la seule pour laquelle il y a eu une catastrophe quand même. Hein. Sur l'échelle de 7, c'était 4. Et on a dû la désaffecter et c'était dans le canton de Vaud. On va parler de tout ça tout à l'heure, mais dans l'histoire, il y a aussi toutes les votations. Sophie a fait référence à l'actualité, mais ces votations, elles ont commencé dans les années 90, avec clairement à chaque fois, de la part du peuple, comme du Conseil fédéral, comme des chambres, non, on ne continue pas, on ne relance pas de nouvelles centrales nucléaires. On va parler de tout ce qui est objectif 2050 en matière, évidemment, d'énergie. Merci d'être là et d'avoir accepté cette invitation. Merci non infiniment. Paye. 079 844 0077, donnez-nous votre avis puisque c'est vous d'abord.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Le nucléaire est au centre du débat aujourd'hui. Alors vous d'abord, le retour du nucléaire pour ou contre, et notre invité est Jacques Audergon, ingénieur civil EPFL SIA, et Lise qui nous écrit sur le WhatsApp. Vous d'abord, quid des pistes économie d'énergie? Comment ça se fait qu'on n'en parle jamais à l'instar de toutes les autres ressources qu'on gaspille allègrement sans se soucier des conséquences? Trois petits points de suspension et donc l'emoji qui se cache les yeux.
Ah voilà, celui-ci effectivement. Chris, lui, sans emoji, met en perspective le fait que les métaux rares, eh bien, sont souvent des enfants qui en subissent les conséquences parce qu'ils les extractent. Et puis le charbon pollue, dit-il, le nucléaire, les déchets, c'est difficile de trouver une solution. Et puis d'autres messages sont arrivés, comme Guy qui dit « on n'a pas le choix », et puis d'autres qui disent « on devrait mieux utiliser l'eau des rivières ». Alors justement, parlons-en, parlons de la stratégie énergétique 2050, mais avant de le faire, on va écouter un message.
Moi, j'estime que si on a notre électricité à nous, c'est plus profitable. Et puis de deux, les gens, ils auraient quand même encore du travail. L'électricité pour contribuables, ben, il serait aussi adapté. Et puis un petit peu moins cher que si on le prend de l'étranger. C'est clair, c'est toujours un risque pour tout le monde.
Jacques Audergon, alors évidemment, se pose la problématique de comment ça va se passer dans le futur. Et ce futur, c'est 2050, puisque c'est la stratégie énergétique 2050. L'électricité occupe une place très importante dans cette stratégie. C'est quoi, en deux mots, les enjeux majeurs de cette stratégie ou de ce qu'on va devoir mettre en place pour avoir de l'électricité? Parce que le gros problème, c'est qu'au-delà de la pollution, le pire, et tous les spécialistes le disent, c'est si un jour on a des coupures d'électricité durablement. Hein.
Tout à fait. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'un des enjeux majeurs de cette stratégie, c'est d'assurer la sécurité de l'approvisionnement, tout en réalisant les objectifs de la neutralité carbone en 2050.
Ça veut dire, il nous faut de l'électricité, mais il faut polluer un minimum, c'est ça?
Exactement. Et pour cela, il faut rapidement développer les énergies renouvelables, indigènes. Donc, on a l'eau, le soleil, le vent, la biomasse et même la géothermie.
Ça veut dire que l'hydraulique reste quand même en tête. Hein,
chez elle représente 55% actuellement de notre production énergétique. Elle reste le pilier de la stratégie énergétique 2050. En fait, on peut dire qu'actuellement, on a en gros 60 TWh de production qui permet de couvrir la consommation annuelle d'électricité, avec une particularité tout de même, c'est que ce bilan annuel est réjouissant, mais en réalité, lorsqu'on regarde le comportement saisonnier, il se trouve qu'en été, on a une surproduction d'énergie qu'on vend évidemment à nos voisins, mais en hiver, on doit importer, ce qui est évidemment un problème, parce que c'est une importation qui n'est pas négligeable et qui en plus s'appuie surtout sur le nucléaire français.
Alors, ça, on va en reparler tout à l'heure parce que, évidemment, la solution, ce serait de trouver une façon de stocker toute cette énergie produite par le solaire en été pour l'hiver. Mais on va d'abord écouter un message.
Moi, je pense que le peuple a l'impression que le nucléaire, c'est Tchernobyl. Alors que Tchernobyl, c'est totalement désuet comme technologie. Ça correspondrait à rouler en Renault 4 maintenant. Le nucléaire, il évolue. Maintenant, on parle de centrales à sel fondu, on parle de thorium, on parle de plein d'autres façons de faire du nucléaire. Donc maintenant, on peut pas s'imaginer qu'est-ce que sera le nucléaire dans 20 ans. Mais si on le ferme, si on ferme la porte au nucléaire, on va se priver de cette solution.
Jean-Philippe parle de thorium. Ça, c'est votre passion.
Tout à fait.
Parce qu'au départ, les Américains, en fait, ils ont fait tout faux. En 1950, ils ont choisi l'atome, ils ont choisi quelque chose qui devait permettre de faire des centrales nucléaires et des bombes atomiques, c'est ça?
Exactement.
Ils auraient pu choisir. Le thorium, c'est une autre chose, le thorium?
Le thorium, c'est tout à fait une autre technique qui est en fait. Le thorium permet d'alimenter comme combustible, au fond, les déchets radioactifs des centrales actuelles, permet d'obtenir une énergie électrique avec beaucoup moins de déchets nucléaires et beaucoup plus sûrement. Donc, personnellement, je crois à cet avenir. Les Chinois et les Indiens développent des centrales, d'autres aussi dans le monde, mais surtout les Chinois, qui, dans les 3 ou 4 ans, vont construire des centrales qui vont être effectivement servies et produire de l'électricité. Et j'imagine que c'est une des bonnes solutions pour l'avenir si on doit revenir au nucléaire.
Alors, doit-on ou non revenir au nucléaire? C'est ça, c'est la question qu'on vous propose de traiter aujourd'hui. Vous d'abord, 079 844 00 77.
Vous d'abord, la parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Augier.
Le nucléaire, aujourd'hui, est notre thème, le retour du nucléaire. Précisément pour ou contre, notre invité, Jaco Dergon, ingénieur civil EPFL SIA.
Et la plupart des messages sont une nouvelle fois très partagés, je le disais, avec ceux qui pensent que c'est définitif, qu'il faut l'abandonner, que cette énergie n'a aucun avenir, qu'il faut encourager les énergies renouvelables, on n'a pas le choix parce qu'on ne saura pas comment stocker les déchets, et d'autres qui pensent que c'est une histoire de politique, d'écologiste, et qu'on ne va pas pouvoir faire sans, et que de toute façon, l'énergie nucléaire pollue moins que d'autres. Voilà en gros ce que nous entendons ou ce que nous lisons. On va écouter les messages, mais juste avant, une toute petite question qui est venue dans les messages. Est-ce qu'on a les moyens de développer encore l'énergie hydraulique qui représente quand même un fort pourcentage, comme vous l'avez dit tout à l'heure?
Effectivement, il y a des perspectives de développement, mais relativement limitées. On compte actuellement, disons, 2 TWh à peu près de développement possible pour différentes raisons. C'est que comment développer cette énergie hydraulique? C'est surélévation de barrages, construction de nouveaux barrages, mais je rappelle quand même que la construction d'un barrage a affronté des oppositions, donc c'est de nouveau une histoire qui peut prendre du temps. Et donc, on espère améliorer encore la couverture hydraulique. Mais il ne faut pas oublier en plus ce qui avait été évoqué, c'est la fonte des glaciers, un nouveau régime de pluie à moyen terme. Et donc, cette énergie reste le socle de base, mais en aucun cas peut se substituer à l'ensemble.
On va écouter les messages, comme je le disais, dont celui de Stéphane.
On a assez de ressources en Suisse, que ce soit les barrages hydrauliques en Valais, ou bien alors dans le Jura, à Montcrozin, il y a les éoliennes, et Mont-Soleil, il y a les panneaux solaires. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt exploiter ça pour la Suisse que aller revendre l'énergie en Allemagne, ou bien en Italie, ou bien en France, et racheter de l'électricité encore plus cher. Il y a un avenir à jouer. C'est nos gamins qui vont jouir. Moi, je pense que les centrales nucléaires, c'est pas la bonne solution.
50-50 et des avis qui sont parfois très étayés. Écoutez ce qu'en dit Martial.
Alors, je suis un petit peu mitigé de dire on revient ou on revient pas sur le nucléaire. Effectivement, le peuple a voté la sortie du nucléaire. Peut-être qu'on l'a fait hâtivement par rapport à différents accidents qui sont survenus dans ce domaine-là. Si on décide de revenir au nucléaire,
il faut un certain temps pour pouvoir construire une centrale ou réajourner nos centrales nucléaires. On n'est encore pas prêt avec les énergies renouvelables. Donc si on décide de pas aller dans la voie du nucléaire, ce qui est tout à fait possible et légitime, on va finir de toute façon par acheter du nucléaire à l'étranger et au prix qu'on ne pourra pas maîtriser. Ça, c'est une quasi-certitude, disons. Je ne sais pas s'il y a une vraie volonté de passer une transition, parce qu'on a aussi des lobbies derrière qui favorisent telle ou telle énergie. Je ne vois pas vraiment, donc, à très court terme, comment on pourrait, si c'est de travailler avec le réseau européen, sur soi un problème énergétique, en tout cas au niveau de la Suisse directement. Ça me paraît compliqué.
Et là, vous serez d'accord, Jacques Audergon, évidemment, l'une des problématiques, c'est les coupures d'électricité. Hein, ça peut faire des sacrés dégâts.
Tout à fait. Il faut distinguer d'ailleurs la pénurie, qui est un abaissement de la fourniture d'électricité, et puis la coupure carrément, c'est-à-dire le blackout, en réalité. Quand on mène des analyses de risque, j'ai eu la chance de faire ça pour les cantons romands, on s'aperçoit qu'après 3 jours déjà, c'est une catastrophe, et au-delà, c'est vraiment dramatique. Et donc, quel que soit le mode de production, il faut en tout cas se couvrir et se protéger de ce risque qui existe, mais qui, heureusement, on souhaite qu'il ne se produise jamais.
10 à 15 ans, c'est plausible, la construction d'une centrale nucléaire ?
Oui, alors, bon, ça dépend aussi des instruments qu'on utilise, mais je pense qu'il est possible de construire une centrale nucléaire dans l'espace de 10 à 15 ans. Mais naturellement, il faut qu'on règle le problème des oppositions qui peuvent se présenter. Donc, c'est surtout ce problème-là qui peut prolonger, disons, le délai.
Et on va écouter ce qu'en pense la rue, bien sûr.
Bon, après, le mieux, ce serait le solaire, qui mette de plus en plus de solaire. Là, on a beaucoup de toits et de choses, de possibilités pour l'en mettre. Donc non, le nucléaire, non, il y a d'autres sources à chercher.
On l'avait abandonné sûrement pour des bonnes raisons, donc pas forcément y retourner.
C'est pas non plus une si mauvaise idée, mais c'est toute la gestion des déchets nucléaires qui est à avoir et qui est encore à développer énormément. Je pense qu'il peut y avoir des bienfaits, mais ça reste encore assez risqué.
Je préférais quand même utiliser du nucléaire plutôt que d'autres énergies qui sont très polluantes pour l'environnement, etc.
C'est très partagé, comme vous pouvez le constater. On vous attend au 079 844 0077.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Ogier.
La parole.
On fait pas dans les économies d'énergie, nous. Hein.
Non, on aime deux fois plutôt qu'une, c'est un peu notre slogan. Après vous, d'abord, la parole est à vous. Et la parole est à vous sur le retour du nucléaire. Pour ou contre, et Jacques Audergon, notre invité, est ingénieur civil EPFL-SIA.
Et on va écouter le message de Cédric. C'est toujours possible de nous envoyer des messages, évidemment, au 079 844 0077.
Je ne vais pas être méchant, mais à un moment donné, on ne peut pas prôner la voiture électrique, le tout électrique, entre guillemets, la voiture électrique, trottinette, les smartphones, le télétravail, et puis penser qu'on va avoir de l'électricité sans problème, quoi. Quelque part, on a une surcharge de consommation électrique dans l'usage de tous les jours, donc à un moment donné, on devra trouver des solutions. Écologiquement, ben, c'est pas malin. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a comme autre solution. Encore, on va pas trop se plaindre. On n'a pas des mines de charbon chez nous, donc voilà quoi. Et puis, je pense que le nucléaire, au jour d'aujourd'hui, il a bien évolué. Et puis, peut-être que c'est moins risqué qu'il y a 30 ans ou 40 ans en arrière.
Alors, sans répondre à Cédric, parce que le principe, c'est de donner d'abord la parole aux auditrices et aux auditeurs, mais Jacques Audergon, ça évolue quand même, les recherches sur le nucléaire, alors qu'on voit que ça évolue moyennement quand même, les recherches sur comment on pourrait stocker l'énergie solaire, par exemple, en surplus en été pour l'hiver, ça évolue quand même un peu ?
Tout à fait. On voit maintenant poindre les centrales de 4e, voire 5e génération, avec évidemment une sécurité accrue, une meilleure utilisation de l'énergie de base. Et puis, alors, ce qui m'intéresse personnellement, c'est précisément les futures ou nouvelles centrales au thorium.
Ah oui, c'est votre passion, ça.
Je trouve que c'est vraiment un avenir prometteur et que les Chinois se chargent de développer. Pourquoi ? Parce que le thorium se nourrit au fond des déchets radioactifs pour, en quelque sorte, le carburant de ces centrales et qui émet lui-même très peu de déchets radioactifs. Donc c'est intéressant, sécurité accrue et puis émission de déchets beaucoup moins importants que maintenant.
On a l'impression, Jacques Audergon, et c'est au scientifique que je m'adresse, hein, l'impression des fois qu'il y a une catastrophe et du coup, évidemment, derrière, ça ralentit tout ça. Et des catastrophes, ben, y en a toujours un peu quand même.
Alors, il faut distinguer peut-être les grandes catastrophes
oui,
et puis le sentiment, d'ailleurs, autre, le sentiment de catastrophe ou l'impression. Parce que il y a au fond le sentiment populaire hein, qu'on voit après des événements importants. On peut comprendre d'ailleurs, c'est assez logique. Mais si on se pose sur, si on regarde les analyses qui sont scientifiques, hein, l'année des risques, qui consiste au fond à tenir compte des événements, de la technologie, du passé au point de vue statistique, et puis sur cette base de construire des simulations, des modèles d'accidents potentiels, moyens, très graves, catastrophiques, ça permet effectivement une approche beaucoup plus stricte.
Sereine aussi.
Sereine aussi, et qui est d'ailleurs partagée par de nombreux spécialistes, pas seulement les spécialistes nucléaires, mais d'autres spécialistes qui mettent ensemble leurs efforts, permettent de définir au fond un risque. Et le risque, c'est un élément qui caractérise au fond un danger, et ça permet de comparer surtout.
Mais vous qui êtes un scientifique, on a l'impression d'avoir d'un côté tous les gens, et à juste titre, qui disent on devrait développer les énergies renouvelables, on devrait aussi mieux utiliser l'énergie produite par les énergies renouvelables pour la stocker, etc. Puis de l'autre côté, des gens qui disent non, sans le nucléaire, on ne peut pas s'en sortir. Est-ce que c'est vraiment serein le débat, vous qui avez une vision de scientifique avec un peu de recul?
Il faut d'abord se placer dans la perspective de la stratégie. Une stratégie, c'est avoir des objectifs à long terme, 30, 50 ans, et oui, pas à 2 ans, hein, 30, 50 ans, et de définir des conditions en cadre, une sorte de couloir dans lequel on va se déplacer en faisant par étapes la mise au point de différentes technologies, et puis on peut toujours vérifier à chaque étape si on est toujours dans ce couloir. Ce qu'on peut dire actuellement, c'est que la stratégie s'appuie évidemment sur les énergies renouvelables, qui est certainement une bonne chose, puisque ça fonctionne apparemment, en tout cas maintenant. Par contre, quid de 2050 ou 2060, est-ce qu'on aura assez d'énergie renouvelable? Est-ce que, compte tenu de l'évolution extrêmement importante de la consommation électrique, hein, on l'évoquait avec...
Il y a beaucoup de messages qui disent ça.
Mais c'est vrai, parce que, et ça peut même exploser, disons, parce qu'on est en train d'électrifier complètement la société. Qu'est-ce qu'on fera en 2050? Et ça, personne n'est capable de le dire pour l'instant.
079-844-0077, c'est notre répondeur, mais aussi la rue, évidemment, quand on tend notre micro, un petit vox populi.
Ça devient vite compliqué, donc on veut de l'électricité, on veut tout le confort, par contre on veut pas de nucléaire, on veut pas d'éolienne, on veut pas de panneaux solaires. Ouais, je pense qu'à un moment donné, il faudra quand même trouver des compromis.
Si on doit parler du nucléaire, le nucléaire, ça rendrait le pays très indépendant. Oui, il y a la radioactivité, il y a tout ça, mais ça protégerait énormément le pays et ça permettrait de faire énormément d'économies.
Je pense que la Suisse, elle a malheureusement, comme beaucoup, dans beaucoup de domaines, elle a beaucoup de retard, et puis elle se rend compte que la dépendance énergétique, notamment en matière fossile, ben, ils sont enfin emprisonnés, puis que maintenant on essaie de rétro-pédaler.
Et ça reste très partagé, vous pouvez encore donner votre avis. Bienvenue dans Vous d'abord.
Vous d'abord. La parole est à vous sur LFM jusqu'à 13h. Jean-Marc Richard, Valérie Ogier.
Le retour du nucléaire pour contrer notre invité Jacques Audergon, ingénieur civil EPFL SIA.
Et alors les arguments pour, c'est plutôt effectivement l'indépendance énergétique, et les arguments contre, ce sont les déchets et les sorciers de la science, dont vous ne faites pas partie, Jacques Audergon, mais dans les messages qu'on a reçus, ils font des expériences et on voit ce que ça donne. Bref, voici un message que nous venons de recevoir.
Je ne sais pas si c'est une réflexion qui va dans le thème du jour. En même temps, avec la production aussi des voitures électriques, des vélos électriques. Alors tout ça, c'est sûr, ça pollue moins en émissions carbone. Par contre, on va quand même avoir besoin d'électricité pour charger tous ces moyens de transport. Donc ça veut dire quand même qu'en termes d'utilisation, on consomme plus d'électricité aujourd'hui.
Alors, c'était pas une voiture électrique, en tout cas. Vu le bruit de fond.
Ça, c'est sûr. Désolé à l'auditrice, c'était pas une voiture électrique. Ou alors, elle a des problèmes avec sa voiture électrique. Ça, c'est possible, effectivement. On a reçu un message de Sylvie qui, elle, est clairement contre.
Moi, je suis contre le nucléaire. D'ailleurs, j'ai un drapeau qui est affiché sur mon balcon, hein, quand on me l'a proposé. Et puis, Mme Leuthard, elle s'est battue pour sortir du nucléaire. Hein. Elle a gagné. Je ne vois pas pourquoi qu'on reviendrait en arrière. Et on a voté la loi sur les barrages pour les surélever, pour faire plus d'électricité. Sur les autoroutes, qu'on mette des panneaux solaires pour valoriser le solaire. Moi, j'ai été en Allemagne, j'ai été stupéfaite. Ils ont plein de centrales de panneaux solaires et ils sont gagnants. Hein.
Jacques Audergon, merci beaucoup d'être venu. Je vous ai vu grimacer parce que, voilà, c'est pas nécessairement la bonne solution, ou bien les panneaux solaires sur les autoroutes, ou selon vous ?
C'est pas la question des panneaux solaires sur les autoroutes, c'est la question de la production électrique à partir des cellules photovoltaïques. On a organisé il y a pas longtemps une soirée consacrée au thème « Trop d'électricité en été, quel avenir pour le photovoltaïque ?» C'est un peu provocateur, mais c'est vrai, le problème, c'est qu'en été, on aura largement assez d'électricité qu'on exporte, mais le problème, c'est qu'on en a besoin en hiver, et le photovoltaïque fonctionne surtout en été. Donc le problème, c'est comment transférer cette surproduction été en hiver. C'est le vrai problème.
Alors, une toute dernière question, en vous remerciant d'être venu. On a compris que vous, ça ne vous gênerait pas, ou ça ne vous gêne pas si on reprend un petit peu du nucléaire en Suisse, mais si on décide, ou si la population décide non, c'est non pour la troisième ou quatrième fois, est-ce que c'est une vraie catastrophe ?
Alors, pour le court terme, il n'y a pas trop de problèmes. Avec tout de même un bémol, c'est qu'il faudra bien combler le déficit hiver si on n'a pas les techniques de transfert qui sont qui arrivent à temps.
On espère que ça arrive.
Et on utilisera des centrales à gaz. Donc en réalité, le bilan finalement environnemental risque de se dégrader parce que ce courant, on en a besoin. Et donc le vrai débat, c'est à terme, à 10-15 ans, que se passera-t-il ? Est-ce qu'on peut vraiment se priver de cette énergie, cette forme d'énergie ? Pour l'instant, il n'y a pas besoin d'en décider. Par contre, je me permets de dire que de laisser la porte ouverte en stratégie, c'est se laisser la possibilité de souplesse quand il y aura des événements qui nécessiteront, disons, de s'adapter.
Merci beaucoup Jacques Audergon d'être venu, ingénieur civil et PFL SIA. Et vous aurez la parole pour conclure dans quelques instants.
Vous d'abord, avec Jean-Marc Richard et Valérie Augier.
Pour ou contre le retour du nucléaire avec notre invité Jacques Audergon, ingénieur civil PFL SIA et auteur de cette phrase que l'on va retenir. Jean-Marc, la souplesse, la porte ouverte, ça permet d'une certaine souplesse.
Ah, l'amplitude, c'est un joli thème, l'amplitude, effectivement. Alors, pour ne rien vous cacher, et ce sera la dernière fois que je le dis, je le promets, c'est qu'en fait... C'est que le pourcentage était à 50-50 au début, et on s'arrête à 60-40 pour le retour du nucléaire, en tout cas par rapport aux arguments qui sont les vôtres. Et ce message qu'on vient de recevoir résume assez bien un des arguments majeurs des gens qui sont pour.
Bonjour, c'est Louise de Lausanne. Je voulais dire que le nucléaire, c'est dangereux. De plus en plus, voir le contexte mondial, de plus en plus de guerres. On voit les accidents qui sont déjà arrivés en Ukraine dernièrement, qui peuvent donc avoir des conséquences graves. La solution pour l'énergie doit être de plus en plus régionale et localisée pour être autonome et indépendant.
Voilà. Donc, ça peut être aussi le nucléaire, effectivement, le régional et le localisé. Donc, il y a les deux choses. C'était dans ce message de Louis. Il y a vraiment les deux choses qu'on a eues dans tous les messages qu'on a reçus. Merci beaucoup, Valérie. Et on se donne rendez-vous avec plaisir demain. Et demain, c'est le récapitulatif de la semaine. Donc, séance de rattrapage, allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi faire la séance de rattrapage sur Carac TV avec le replay de Vous d'abord, ou bien sûr sur LFM avec le replay de Vous d'abord.
Je ne vous cache pas, Jean-Marc Richard, que je me réjouis demain.
Vous l'avez fait.